Bonsoir, vous écoutez un épisode hors série de Proxy Jeux, l'enregistrement du Meetup Gaming Lab du vendredi 11 octobre 2019. Comme pour le troisième Meetup, l'équipe Gaming Lab nous a proposé d'animer et d'enregistrer la conférence qui a eu lieu le 11 octobre 2019 à l'ISEA Multimédia à Paris sur le thème Jeux et enjeux, faire société. La qualité sonore de l'enregistrement varie malheureusement au cours de l'épisode. J'espère que vous ne nous en tiendrez pas rigueur. Bonne écoute! Donc bonsoir, bienvenue au quatrième meet-up de Gaming Lab, qui va parler aujourd'hui d'un sujet large, jeu et enjeu, faire société. Donc la dimension sociale, sociétale, jusqu'à communautaire que le jeu peut apporter, avec trois intervenants ici qui vont vous expliquer qui ils sont, ce qu'ils font, et qui vont ensuite pouvoir répondre à vos questions sur ce vaste sujet. Avant de commencer, pourquoi ce thème? Ce thème a été choisi en clin d'œil au colloque du GIS jeu et Société qui s'est tenu hier, aujourd'hui et qui se tient encore demain. Moi, je suis Thomas, je suis du podcast Proxy Jeux. On a un podcast de passionnés sur le jeu de société. Et j'accompagne aujourd'hui le Gaming Lab dans l'animation, la facilitation de cet échange. Et ce qu'on fait ce soir, ce qui va être dit, est enregistré et sera diffusé dans les semaines qui viennent sur le podcast Proxy Jeux. Donc on aura une trace audio et vous pourrez réécouter ça. Et les gens qui ne sont pas là ce soir pourront écouter ça. D'où la présence des micros pour que l'enregistrement soit le plus propre possible. Ce que je vais faire en termes de déroulé, c'est que je vais donner la parole aux trois intervenants séquentiellement en leur demandant rapidement de se présenter, de dire qui ils sont, quel est le sujet de leur travail ou de leur recherche qui les a amenés à être présents autour de la table ce soir en quelques minutes afin de que vous puissiez mieux les connaître, les comprendre et de mieux comprendre leurs interventions par la suite. Donc tout d'abord, Aymeric Brody, tu es sociologue, chercheur, notamment au sein des laboratoires Experis et Casper, et tu as un travail autour de la communauté des joueurs amateurs de poker. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Oui, évidemment, bonjour à toutes et à tous. Merci donc aux membres du Gaming Lab, en particulier à Gabriel Faust qui m'a transmis cette invitation pour cette table ronde donc sur la dimension sociale et communautaire du jeu, une dimension qui est effectivement au centre de mes recherches, de ma thèse et de mon postdoctorat, donc une thèse que j'ai réalisée à l'Université Paris 13 au sein du laboratoire Experis sous la direction de Gilles Brougère ici présent, donc spécialiste de la question notamment de la relation entre jeu et apprentissage, qui explique un peu aussi certaines thématiques de ma thèse. Et donc ma thèse portait sur une communauté spécifique, une communauté de joueurs un peu spécifique, celle des joueurs amateurs de poker. Donc auprès de qui j'ai mené l'enquête en me penchant plus particulièrement sur la question de leurs apprentissages et de leur pratique du jeu. Donc c'est une communauté, disons pour le dire en quelques mots, une communauté de joueurs essentiellement de jeunes hommes entre 18 et 35 ans, principalement, même si ça se discute, issus des classes moyennes, blanches, c'est aussi à signaler, et dont la particularité est précisément d'avoir découvert la pratique des jeux d'argent en apprenant à jouer au poker. Alors ça vaut pas évidemment pour l'ensemble des joueurs que j'ai rencontrés, mais pour la plupart d'entre eux. Ce qui signifie qu'en gros on a affaire à une nouvelle génération de joueurs, une nouvelle génération de joueurs d'argent, qui ont appris à jouer de l'argent par la pratique de ce jeu en particulier. Et qui ont aussi la particularité, puisqu'il s'agit de joueurs amateurs, d'avoir fait de ce jeu d'argent une pratique de loisir. Une pratique de loisir comme les autres, disons. Ce sont ces joueurs amateurs de poker auxquels je me suis intéressé dans le cadre d'un travail d'enquête ethnographique, donc une enquête de terrain, qui a commencé en réalité en 2006. J'étais à l'époque étudiant en master dans une autre université, à Paris Descartes. Et d'abord, la première enquête a consisté simplement m'intéresser à des groupes de joueurs en partie privée, donc des joueurs qui se rassemblaient dans leur espace domestique, disons, pour jouer entre amis au poker, au moment où ce phénomène médiatique du poker commençait à se diffuser, notamment à la télévision et sur Internet, de façon illégale sur Internet, mais assez massive malgré tout. Et donc ces joueurs qui étaient des joueurs de mon entourage, je pourrais y revenir dans un second temps, mais à l'époque j'étais moi-même joueur de poker. Cette position de joueur m'a permis d'accéder à un espace d'intimité du jeu qui est pas forcément facile d'accès pour n'importe qui, et de réaliser une enquête par observation participante, voire par participation observante auprès de ces joueurs, de plusieurs groupes de joueurs, on va dire les joueurs en partie privés se groupent par table. Par affinité élective, et ils constituent, on va dire, une table domestique. Et j'ai observé la circulation de plusieurs groupes autour de différentes tables de jeu. Ce qui déjà montre une certaine dimension sociale et communautaire, c'est la présence de cette circulation des joueurs entre les différents espaces domestiques du jeu dans cet espace particulier que sont les tables privées de poker. Pour dire deux mots aussi sur les résultats de cette toute première enquête, je vais essayer d'aller assez vite, hein, mais une autre observation assez intéressante, c'était de voir que non seulement les joueurs circulaient entre les espaces de jeu, mais l'argent circulait entre les joueurs. Ça, c'était un phénomène intéressant à observer. C'est que finalement, on avait affaire moins à une compétition où il s'agirait de gagner le plus d'argent possible, autrement dit, gagner l'argent de ses amis, mais plutôt une compétition où quelque part l'équilibre du groupe tient au fait que l'argent circule entre les joueurs. Autrement dit, il ne faut pas qu'il y ait un joueur qui perde trop d'argent, parce que ça pourrait déséquilibrer le groupe qui est d'abord un groupe d'amis. Donc cette dimension, on va dire, amicale de ces parties était au centre de cette pratique du jeu qui était... Alors moi, j'ai appelé ça un potlatch au sens de Marcel Mauss. En fait, c'est simplement pour dire que c'est finalement un système de dons et de contre-dons. Ils jouent avec de l'argent, mais en fait l'argent circule entre eux et d'une certaine manière ne déstabilise pas leur amitié parce qu'il circule encore une fois. Voilà, ça c'était la première enquête. J'en ai fait deux petites monographies. D'abord deux premières enquêtes exploratoires. La deuxième, c'était sur c'était dans le cadre de ma thèse, dans le cadre de mon projet de thèse. Ça a commencé en 2009 et j'ai véritablement commencé cette enquête en 2010. C'était une enquête qui se voulait une ethnographie virtuelle des sites de poker en ligne au moment où ces sites allaient étaient en train de devenir légaux en France suite à la loi de mai 2010 d'ouverture du marché des jeux d'argent en ligne. Et donc l'idée, c'était d'observer ces sites de poker, mais un dispositif particulier à l'intérieur de ces sites, c'est des dispositifs de jeux gratuits, c'est-à-dire des pratiques de jeux sans argent où en fait les joueurs apprennent précisément à s'engager dans la pratique du jeu. Et donc c'était encore une fois cette dimension d'apprentissage qui était intéressante, parce qu'on voyait des gens qui s'engageaient progressivement dans la pratique du jeu en investissant progressivement de l'argent. Donc en fait, pour apprendre à jouer au poker, il faut apprendre à jouer de l'argent, et ces dispositifs-là permettent de reproduire ce que j'observais déjà dans les parties privées, c'est-à-dire un moment, une séquence d'apprentissage où les joueurs commencent à jouer avec des allumettes, parfois avec des jetons, mais sans argent, sans forcément de l'argent. Parfois, ils jouaient la vaisselle, par exemple. Ils introduisaient déjà un petit enjeu avant de pouvoir véritablement entrer pleinement dans la pratique. Et donc la dernière enquête pour en venir à ce qui est un peu le centre de ma thèse, pour de diverses raisons, notamment des questions méthodologiques, j'ai décidé de laisser de côté un peu cette ethnographie virtuelle, mais de continuer de suivre la trajectoire d'apprentissage des joueurs à l'intérieur du jeu en observant un tournoi de poker qui était un tournoi live donc en face à face, mais qui en réalité était basé sur des tournois de qualification en ligne. Donc c'était un site de poker, le site Winamax, qui organisait ses satellites et ses tournois free-roll en ligne, qui permettaient de se qualifier pour un tournoi live, des étapes live du tournoi, avant de comment dire, de une fois toutes ces séquences de qualification terminées, se retrouver dans un cercle de jeu parisien sur les Champs-Élysées, et avec un vrai enjeu cette fois-ci, puisque le prize pool, le prix du tournoi était quand même d'1 million d'euros, mais en fait les joueurs s'étaient qualifiés gratuitement sur internet. Donc il y avait tout cette trajectoire là que je retrouvais, cette trajectoire d'apprentissage des joueurs amateurs de poker qui en fait se qualifiaient gratuitement sur internet, puis qui participaient gratuitement à un tournoi en live. Alors j'ai suivi comme ça une dizaine d'étapes du tournoi un peu partout, à Paris, à Limoges, à Marseille, à Bordeaux, partout où s'était organisé ce tournoi, qui était en fait un championnat de France, qui se présentait comme le championnat de France du poker. Je ne sais pas si certains connaissent ce tournoi, mais il s'appelait le France Poker Tour à l'époque, et il est devenu le Winamax Poker Tour après. Et donc ce tournoi m'a permis de rencontrer des joueurs qui s'étaient donc qualifié en ligne, qui a priori avait un profil de joueur de poker en ligne, mais qui aussi s'était avait saisi l'opportunité de s'engager dans un tournoi live, et qui comme l'a montré mon enquête par la suite, avait aussi un certain nombre, enfin une vraie expérience du poker en live. Donc voilà pour le contexte un peu de l'enquête. S'il me reste encore un peu de temps, je sais pas, je peux expliquer un peu comment j'ai analysé cette question de la dimension sociale et communautaire du jeu, puisque c'est le sujet un peu de cette table ronde. L'idée, c'était de l'aborder justement avec un concept. Alors, il faut faire attention à la façon dont on utilise les concepts. Moi, je suis pas forcément très orthodoxe en la matière, mais je me suis saisi d'un concept, qui est le concept de communauté de pratique, qui a été abordé pour la première fois dans un ouvrage paru en 91 de Lev Ewinger, qui présente en fait une théorie sociale de l'apprentissage basée sur l'idée que finalement tout apprentissage se réalise progressivement en s'engageant progressivement dans une communauté, dans un contexte social qu'ils nomment en l'occurrence communauté de pratique. Donc par exemple, ils prennent l'exemple des communautés d'alcooliques anonymes, des groupes d'alcooliques anonymes, et ils montrent comment les membres de ces groupes s'engagent progressivement. D'abord, lors des premières réunions, ils ne prennent pas véritablement la parole, ils écoutent, ils observent, ils se mettent un peu en retrait, ils adoptent ce que Lev Ewinger appelle une participation périphérique légitime, c'est-à-dire que à la fois ils sont à leur place à l'intérieur du groupe, ils sont légitimes à assister aux réunions dans un premier temps, mais ensuite mais malgré tout ils ont une participation partielle à la situation. Ils peuvent pas participer comme les membres qui sont parmi les plus anciens, en l'occurrence dans le cadre de ces groupes d'alcooliques anonymes. L'exemple que prennent donc Lev Ewinger, c'est une posture d'écoute des membres les plus anciens, qui eux prennent le temps de raconter leur histoire, de parler de leur problème d'addiction à l'alcool, en l'occurrence. C'est un lien avec ce que je fais aujourd'hui, c'est pour ça que j'évoque cet exemple. Et ensuite, donc, dans un deuxième temps, ces membres vont prendre la parole, s'engager dans la situation, et progressivement se permettre justement de raconter leur histoire et de s'engager pleinement dans la situation. Et en fait, j'ai retrouvé un peu ce processus donc que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire un engagement progressif dans la pratique du jeu, d'abord du jeu sans argent au jeu d'argent, à travers différents contextes d'engagement. Et finalement, c'est donc la trajectoire d'apprentissage de ces joueurs à l'intérieur d'une communauté de pratique qui m'intéressait. Alors, Ewinger poursuit ensuite le travail qu'il avait initié avec Jean Lave, donc une anthropologue, pour définir précisément ce dont il est question quand il est question de communauté de pratique. De quoi on parle? En l'occurrence, il définit ces communautés de pratique en fonction de trois critères. Le premier critère, c'est l'idée d'un répertoire partagé entre les membres. Le deuxième, c'est celui d'un engagement mutuel de ces derniers dans les activités du groupe. Et le troisième, c'est donc une entreprise commune visant à les réunir. Alors j'ai essayé de reprendre ces critères dans l'article qui vous a été donné en lien de cette table ronde. Donc un article publié dans la revue Reset, où j'explique donc qu'à mon sens, on retrouve ces trois critères dans la communauté des joueurs amateurs de poker que j'ai pu observer, notamment en partant de ma dernière enquête dans le cadre du tournoi que j'ai évoqué, en disant donc que l'entreprise commune des joueurs, c'est la participation à ce tournoi. Ils s'engagent dans un tournoi communément, alors qu'ils viennent d'univers différents. Bref, je vous passe les détails. Mais en s'engageant en fait dans ce tournoi, l'idée c'est pas seulement de s'engager pour participer au tournoi, même si on est bien dans ce registre de participation, un peu comme voilà la devise de Pierre de Coubertin, l'annonce pour les Jeux Olympiques, c'est effectivement le but c'est pas de gagner, c'est de participer. Eux, c'est pas de gagner, c'est de participer, mais c'est de participer aussi pour apprendre et progresser dans leur pratique. Donc ça, c'était un élément intéressant, c'est qu'il s'agit donc d'une communauté de pratique, c'est-à-dire d'une communauté d'apprentissage en quelque sorte, où en fait les joueurs s'engagent dans une entreprise commune, et cette entreprise commune consiste finalement à essayer de progresser dans leur pratique du jeu. La deuxième dimension, c'est la dimension d'engagement mutuel, donc il me reste encore deux points. Et là, on pourrait dire engagement mutuel. Quel est l'engagement mutuel de ces joueurs qui se sont engagés gratuitement dans ce tournoi, le tournoi que j'évoquais tout à l'heure? Alors, ils se sont engagés gratuitement, certes, mais en réalité, ils se sont engagés... ce qu'ils n'investissent pas en termes d'argent, ils l'investissent en termes de temps. C'est une dimension importante de leur engagement dans la pratique. C'est ils engagent du temps pour se qualifier dans ce tournoi. Pour se qualifier à ce tournoi, ils ont parfois passé plusieurs heures, voire plusieurs jours. Et c'est ce temps consacré au jeu qui, finalement, les engage mutuellement dans une partie. C'est pour ça qu'ils prennent ce tournoi au sérieux, très au sérieux même. Même s'ils n'ont pas forcément en tête l'idée de gagner, de remporter le tournoi. Encore une fois, je le dis, leur but c'est moins de gagner que de participer et de progresser dans leur pratique du jeu. Donc là, on voit qu'ils sont prêts à passer des dizaines d'heures pour se qualifier à un tournoi et jouer ensuite en live avec d'autres joueurs, sans avoir forcément en tête l'idée de gagner, parce qu'ils sont 8000 participants, il y aura qu'un vainqueur, donc très peu de gagnants au final. Ils savent ça, ils savent qu'ils ont peu de chances de gagner, mais ils s'engagent quand même mutuellement parce qu'ils y ont passé des heures notamment et ensemble parfois sur internet. Alors un répertoire, dernière catégorie, dernier critère, le critère du répertoire partagé, c'est l'idée donc que ces joueurs finalement, même si ils viennent d'univers différents, ils sont parfois joueurs de poker en ligne davantage que joueurs de poker en live. Il y en a qui ont commencé à jouer directement sur internet, d'autres qui ont commencé dans des parties privées, mais finalement on retrouve quand même une certaine homogénéité de leur pratique au-delà des dispositifs qu'ils fréquentent, c'est-à-dire que finalement ils ont toutes et tous des pratiques en commun qui leur servent de ressources pour s'engager dans une situation comme celle de ce tournoi. C'est-à-dire que clairement, ils ont tous déjà eu l'expérience de parties entre amis, ils ont tous eu l'expérience de parties sur Internet, ils ont tous eu l'expérience, enfin une majorité ont déjà eu l'expérience d'un tournoi de poker. Donc voilà, c'est cette polyvalence qui les rassemble, cette diversité des pratiques qui les rassemble, et en fait derrière cette diversité des pratiques, il y a encore dans leur esprit l'idée que c'est en diversifiant leurs pratiques que on apprend, on progresse dans sa pratique du jeu. Donc voilà, les résultats de l'enquête que j'ai menée dans le cadre de ce tournoi et donc plus largement auprès des joueurs amateurs de poker montrent qu'il existe bien un répertoire de pratiques du jeu largement partagé par les joueurs, un répertoire d'expériences ludiques qui sont autant de ressources pour s'engager mutuellement dans une entreprise commune, comme ici donc lors d'un tournoi de poker en live. Il semble donc légitime de parler d'une communauté de pratiques pour qualifier ces joueurs qui, par leur pratique et leurs apprentissages du jeu, forment un groupe relativement homogène, capable de se rassembler par milliers autour d'une même passion ordinaire pour le jeu. Donc, pour reprendre un peu l'idée de l'article, et peut-être déconstruire certains préjugés qu'on peut avoir sur ces joueurs, c'est une communauté de pratique dont la dimension socialisatrice et ludique contraste finalement avec la figure médiatique du poker player, celle du poker player attiré par le gain, la réussite individuelle, mais aussi qui contraste avec la figure tout aussi médiatique et dont on a beaucoup parlé durant le colloque du GIS, des joueurs compulsifs qui, seraient donc en proie à l'addiction, l'endettement et l'isolement. En fait, ce sont des joueurs qui sont en quelque sorte très bien entourés, et ça contraste avec les joueurs que j'ai pu rencontrer dans le cadre de mon post-doctorat. Je pourrais y revenir par ailleurs, mais donc une enquête que j'ai menée auprès des joueurs anonymes, c'est pour ça que j'évoquais ces groupes d'alcooliques anonymes, c'est que finalement on retrouve malgré tout une espèce de présence d'une communauté de pratique dans la socialisation au jeu de ces joueurs amateurs de poker. La communauté de pratique est une espèce de cadre, de contexte social qui leur permet de s'engager dans leur pratique. Or, les joueurs compulsifs que j'ai pu observer dans cette deuxième enquête, que j'évoque juste très rapidement pour conclure, quelque part, ont été socialisés très tôt, de façon assez précoce, souvent dans une socialisation primaire dans leur cercle familial au jeu, et quelque part, après leur initiation directe au jeu, ont subi une phase un peu d'isolement par rapport au jeu. Ils étaient un peu en dehors de cette communauté de joueurs, qu'elle soit concrète ou virtuelle. Or, les groupes de joueurs anonymes leur permettent finalement de réapprendre à s'engager dans une communauté qui leur permet non pas d'apprendre à jouer le jeu, mais à ne plus jouer, puisque la règle de base de ces joueurs anonymes, c'est l'abstinence.
Merci. On va passer au deuxième intervenant, Jérôme. Donc Jérôme Soldani, tu es ethnologue, chercheur, aujourd'hui rattaché à l'université de Paul Valéry à Montpellier. Et tu vas nous parler de jeux, mais surtout de sport, et les jeux sportifs des Austronésiens formosans.
Beaucoup de termes compliqués, j'en suis désolé. D'abord, bonjour à toutes et à tous, et merci à l'équipe du Gaming Lab pour leur invitation à venir vous parler de ces sujets. Je vais vous parler de quelque chose qui a été publié l'année dernière dans un article paru dans Science du jeu, et donc je vais essayer de vous exposer ces questions-là. Alors, est-ce qu'il est question de jeu, de sport, justement? C'est toute la question aussi. Qu'est-ce qui fait le jeu? Qu'est-ce qu'est un sport exactement? C'est difficile à définir. Je vais sans doute pas aborder ces questions-là beaucoup plus théoriques ce soir. L'idée étant de tenter de décrire et d'analyser, dans l'idée de parler de communauté, les pratiques ludo-sportives, donc les jeux sportifs, de la minorité austronésienne formosane, donc d'un groupe linguistique minoritaire. Ils sont 2%, 2% des 23 millions d'habitants qui peuplent Taïwan aujourd'hui, les 98 autres pourcents étant appartenant à la majorité dite Han ou chinoise. Voilà. Pour recontextualiser un peu, ce groupe-là, les Austronésiens formosans, ce n'est pas un groupe homogène. Aujourd'hui, c'est 16 groupes ethniques reconnus par l'État avec le statut d'autochtone. Ils sont théoriquement plus nombreux, mais voilà, la reconnaissance s'arrête à ces groupes-là. Et ils ont été colonisés depuis le tournant du XXe siècle, d'abord par les Japonais, puis après la Seconde Guerre mondiale, quand Taïwan repasse sous contrôle des Alliés, puis de la Chine nationaliste, des Chinois du Kuomintang qui ont installé leur gouvernement à Taïwan. Et aujourd'hui encore, leur situation est semi-coloniale alors qu'on est dans un contexte démocratique. Voilà. Il faut comprendre que donc ces populations se sont vues interdire toutes sortes de pratiques. À la base, ce sont des groupes de chasseurs de têtes humaines, voilà, jusque dans les années 1920, où l'autorité japonaise a dit qu'il valait mieux peut-être cesser ce type de pratique, voilà. Et depuis plus d'un siècle maintenant, quelque chose qui était inconnu pour eux à la base, à savoir l'État, essaye de leur imposer une nouvelle manière de vivre et de les intégrer dans son système. Et l'un des outils privilégiés de l'État, depuis les Japonais, pour tenter de les intégrer, eh bien, ce sont les sports. Alors, j'ai commencé par travailler dans ma thèse sur le baseball à Taïwan, qui n'est pas un sport américain à Taïwan, mais japonais, parce qu'il a été importé par les Japonais à Taïwan au tout début du XXe siècle. Les Austronésiens y sont particulièrement représentés. Ils représentent 30% de la ligue professionnelle à Taïwan. Donc vous imaginez, 2% de la population, 30% de la ligue, c'est assez important. Et ils sont de toute façon généralement reconnus pour être particulièrement investis dans les pratiques sportives. Il faut dire qu'ils sont encouragés à faire ça par un État qui les considère à la base comme moins capables intellectuellement que les autres membres de la population. Donc on leur donne des bourses pour faire du sport. Voilà. Ce qui explique aussi qu'ils soient particulièrement investis. Cependant, au-delà de cette intégration à marche forcée sous la férule, quelque part, de l'État et des autorités publiques, ces groupes-là ont aussi, depuis le temps, repris la main sur certaines pratiques pour se les réapproprier et créer des événements à travers lesquels ils reconstruisent, très contemporainement, depuis les années 1990 à peu près, reconstruisent en gros leur culture, leur communauté, dans un contexte où ils souffrent parallèlement d'un très fort exode rural. Enfin, ce sont des groupes qui vivent dans les montagnes, ils vont travailler dans les grandes villes, et de perdition culturelle, puisque beaucoup de leurs pratiques ayant disparu, eh bien, en fait, ils ne disposent plus des objets, des pratiques de référence qui leur permettaient de se reproduire en tant que groupe distinct il y a plus d'un siècle. Voilà. De ce point de vue, et sous un angle qui est très propre à l'anthropologie politique, donc j'aborde la question des jeux sportifs chez Austronésiens depuis à peu près 2014 maintenant, sous un angle plus politique. Et ici, en gros, les sports ont les fonctions identitaires du jouer, le verbe jouer, que leur attribue Roberta Maillon. Je vais tenter de les résumer ici. À savoir redistribuer les rôles au sein du groupe, renforcer les sentiments d'appartenance de l'individu à ce groupe et redéfinir les contours de son rapport à l'autre et au monde. Du coup, les questions qui se posent dans la continuité de ça sont en quoi ces jeux sportifs peuvent-ils aussi être un lieu de renégociation de leur relation à l'État, comment les individus vont être incités à travers ces jeux sportifs à se réinvestir dans la vie de leur groupe d'appartenance et quelles formes de liens sociaux se tissent ou se renforcent lors des jeux sportifs qu'ils organisent. Voilà, c'est les thématiques qui sont développées au travers de cet article qui dépend d'une enquête qui a été surtout menée dans le dernier semestre de l'année 2015, début 2016. Voilà. Donc, à travers cet article, j'essaie de développer trois événements en particulier dans cette courte période de 6 mois, à savoir une compétition sportive menée par les Atayals dans le nord du pays, une fête qui a lieu tous les 2 ans dans le centre par les Bounoun, B-U-N-U-N, et ces mêmes Bounoun dans les fêtes de fin d'année, à Noël, dans leur village. Je vais essayer d'y revenir. Je vais vous demander pour ça d'essayer de faire preuve un peu d'imagination, parce qu'on est loin, à 10 000 km de Taïwan, pas la Thaïlande, hein. Taïwan, on est d'accord, une île qui est grande comme la Belgique, qui est surtout connue pour son infrastructure urbaine, mais qui en fait est un territoire très montagneux, ça culmine à 4 000 mètres, c'est la deuxième chaîne la plus haute d'Asie, c'est les 2/3 du territoire, on est dans un climat tropical, donc c'est la jungle, et vous êtes dans des villages donc autochtones qui sont beaucoup moins peuplés que la bande côtière, puisqu'on a des villages, en gros, qui tournent autour d'un millier d'habitants. Voilà. Donc, premier événement que je vous demande d'imaginer, c'est cette compétition sportive nationale à Taïal. Elle se dispute dans un petit village de montagne, dans la cour d'une école. C'est une piste d'athlétisme, voilà. Les choses se mettent en place à partir de 8h du matin, en gros. On est en train de faire les installations de la tribune, des différentes structures pour les pratiques sportives. Vous avez de la musique austronésienne toute la matinée, pas forcément uniquement à Taïal, voilà. Et puis, en fin de matinée, vous avez l'arrivée des équipes qui paradent au format olympique avec un drapeau, mais pieds nus et en tenue, mais sur le son de l'introduction de Star Wars. Voilà. Puis vous avez la présentation, avant même celle des équipes, des gens qui sont présents à la tribune officielle, sur un thème qui, je pense, était celui de Naruto, voilà, avec le maire du comté, le président de la région, des députés, des élus locaux et des directeurs d'école qui vont faire office d'arbitre toute la journée dans les compétitions sportives. Que sont ces compétitions sportives? Ce sont des compétitions classiques. Vous avez du basketball qui va être pratiqué, mais aussi des réadaptations de pratiques quotidiennes anciennes, comme par exemple la chasse, qu'on va transcrire sur du tir à l'arc, mais sur des cibles qui figurent un sanglier, par exemple, ou ma pratique préférée pour cette compétition-là, le sillage de troncs de camphrier avec une scie qui est beaucoup trop petite. Voilà, par une équipe mixte, 6 hommes, 6 femmes, qui se relaient, un homme puis une femme, chacun devant couper un bout de tronc, une tranche, sur lesquelles sont assises 3 autres membres de leur village, et ça dans une course qui oppose 8 villages différents. Voilà, C'est développé comme un vrai sport. On se dispute avant. Un tronc, c'est pas un bout de bois standard. Donc, il y a des nœuds, etc. Donc, on se dispute quel bout de bois on va couper. Les arbitres doivent gérer ça. En plus de se plaindre, parce que ce sont plus des, ils sont plus anciens, que plus personne ne s'est coupé un tronc de bois comme on le faisait il y a quelques années. Voilà. Ce sont les élus qui remettent les récompenses. Bref, voilà, vous avez à peu près ce cadre de jeu national à Tayali qui se déroule maintenant tous les ans. Autre contexte, une fête qui a lieu tous les deux ans, un autre village, une autre école, pareil, sur le terrain d'athlétisme de l'école, mais cette fois-ci, c'est une fête religieuse, on célèbre un groupe dialectal, donc c'est pas tous les bounoums, ce sont les bounoums de langue de dialecte Takitudu, qui célèbrent leur communauté. Donc c'est 4 ou 5 villages différents qui font des kilomètres et des kilomètres à travers la montagne pour se réunir à un seul endroit tous les deux ans. Et là, cette fois, donc, on a une partie rituelle avec des chants, des danses, des vieilles dames qui font du tissage. On décapite un cochon sauvage, on le jette dans le feu, on plante sa tête au bout d'une pique, on va servir le cochon grillé après aux convives avec de l'alcool de millet. Et toutes ces activités-là sont, alterné avec des pratiques sportives où on court, pareil, avec des sacs qui contiennent des cucurbitacées, des tubes en bambou qu'on remplit façon interville dans une grande jarre pour aller le revider dans la jarre en face. Voilà, des compétitions sportives de ce genre-là. Et encore une fois, ce sont des pratiques qui sont adaptées d'anciennes pratiques quotidiennes, puisque effectivement, il y a plus de 50 ans encore, on transportait l'eau dans ces grands tubes en bambou à travers la montagne quand on allait faire la chasse aux animaux, cette fois, qui leur est aussi interdite aujourd'hui. Voilà, ça c'est donc le deuxième cas de figure. Troisième cas de figure que je décris aussi dans cet article, je vais demander encore un peu plus d'imagination cette fois. On est à nouveau dans un village, mais cette fois-ci c'est fini la cour de l'école. On est dans la cour d'une église, qui est aussi un terrain de basket et de volley-ball. On joue sous un grand auvent métallique, toute la cour de l'église donc fait office de terrain de volley-ball. On est à Noël, et pendant 3 jours, du 25 au 27, en gros, on va jouer tous les jours au volley-ball. Car chez les Bounoun, le volley-ball, c'est un jeu communautaire. Attention, on ne joue pas n'importe quelle forme de volley-ball. Ce n'est pas le volley-ball standard. On va jouer un volley-ball qui se joue à 2 ballons, en équipe mixte, à peu près 30 ou 40 personnes sur le terrain. Voilà, et tout le monde participe. Du moment qu'on est entre l'âge de l'adolescence et 60 ans, tout le monde est invité à y participer. Et donc, ce sont des parties qu'on va jouer avec un matériel standard, filet, poteau, des ballons de volley-ball standard. Mais donc, avec 2 ballons, première manche, chaque équipe envoie un ballon simultanément. La deuxième manche, on joue avec 2 ballons servis du même côté. La troisième manche, pour départager, on ne sert qu'un seul ballon. Voilà. C'est très intéressant car l'idée avouée derrière cette pratique et ces 2 ballons, c'est de semer la confusion sur le terrain. C'est aussi plus sympa quand on est 30 parce qu'un seul ballon, c'est un peu triste. L'idée étant de faire vraiment groupe et de s'amuser ensemble puisque peu importe qui gagne, qui perd au final, tout le monde est récompensé de la même manière puisqu'on distribue des cadeaux à la fin de la compétition. Et donc, vous avez 2 files d'attente qui sont de chaque côté du filet. D'un côté, les joueurs et de l'autre côté, les spectateurs. Et tout le monde récupère le même prix. Généralement, un paquet de mouchoirs ou de la lessive, enfin des produits d'utilité courante qui sont néanmoins importants pour les gens de la communauté. Voilà, donc vous avez 3 cas de figure assez distincts. Oui, sachez aussi pour le volleyball à 2 ballons que ce n'est pas que pour les fêtes de Noël. On y joue généralement pour les grands événements de l'année et parfois, on y joue dans certains villages, on y joue tous les dimanches et le plus souvent justement avec 2 ballons. Voilà, l'idée c'est aussi de faire venir les jeunes à l'église, on fait la prière avant parce qu'on joue aussi avec Jésus forcément. C'est principalement la communauté presbytérienne, donc les protestants qui sont concernés, mais tout extérieur est invité à bien vouloir participer s'il est potent. Voilà. Donc on a 3 cas de figure différents et l'intérêt de mettre ces 3 cas de figure côte à côte, c'est de comprendre en créant une espèce de système parce que finalement les gens qui participent à ces différents événements sont souvent les mêmes. Et parallèlement, ils peuvent jouer au volleyball à 2 ballons, mais ils jouent aussi dans des compétitions qu'ils organisent eux-mêmes, aussi dans le cadre de l'église, mais où on joue avec les règles standards et où on invite des arbitres de la Fédération nationale pour arbitrer les matchs. Donc en gros, on n'a pas des réappropriations radicales isolées, mais un système de différentes formes de réappropriation et de construction des jeux sportifs par des communautés, par des individus qui finalement pratiquent presque en parallèle ces différents modes de jeu. Pourquoi c'est intéressant ici? Parce que déjà, ça évite de tomber dans le piège de « Ah, voilà des anticapitalistes et anti-néolibéraux, ils rejettent le modèle global ». Non, puisqu'ils jouent à la fois au volley-ball à deux ballons, qui effectivement ne va pas vraiment dans le même sillage que le modèle néolibéral compétitif, mais ils jouent aussi les mêmes joueurs dans des formes de compétition standard. Bref, l'idée c'est de montrer qu'en gros aussi, ils sont capables de jouer sur plusieurs registres à la fois et de comprendre à peu près lesquels. J'essaie de vous dire aussi que, à travers ces descriptions, que les acteurs présents, notamment extérieurs, ne sont pas les mêmes. Vous avez une compétition nationale de jeu où vous avez des représentants de l'État au plus haut niveau, des députés, des maires, des présidents de région, etc. Des compétitions, des jeux qui sont dans des cadres de rituels où vous avez certes les élus des villages concernés, mais surtout les anciens, les lavianes, qui servent de maîtres de cérémonie, et vous avez des jeux communautaires du dimanche qui se font dans la cour de l'église, où même le pasteur redevient finalement un joueur ou un arbitre comme les autres, et va être évalué à l'aune de ses compétences en termes de joueur de volley-ball. Donc sacerdoce universel à la mode protestante. Bref, vous avez ces combinaisons-là qui se créent, et donc différentes manières aussi de penser à la fois la communauté et le rapport à l'État, en l'incluant, en l'invitant, en le gardant en le gardant présent, mais en le marginalisant, ou en l'excluant quasiment complètement. Donc on a différentes attitudes, et à chaque fois, différents modes de reconstruction. Les jeux atayals rassemblent des communautés qui n'appartiennent pas forcément au même groupe linguistique, mais qui tentent de se regrouper en tant que population atayale selon les critères de l'État. On joue selon des règles sportives, et on va tenter de transformer des anciennes pratiques quotidiennes en sport, dans le sens de sport moderne, en essayant de normaliser, créer des systèmes d'égalité, des compétitions avec des arbitres, etc. Dans un autre cas de figure, on va tenter de réactiver des connaissances, des apprentissages, des transmissions, surtout avec les jeunes générations, qui vont de pair, du coup, avec l'accomplissement d'anciens rituels et de chants liturgiques qui se font dans la langue, dans une langue particulière, et même un dialecte au milieu d'une langue. Et enfin, un jeu communautaire où on va repartager des valeurs qui sont plus ou moins égalitaires, qui renvoient non seulement aux valeurs d'une église, l'église protestante presbytérienne ici, mais aussi les valeurs qu'on attribue à son groupe. Les Bounoun, effectivement, avaient autrefois un système qui était plutôt égalitariste et où il n'y avait pas vraiment de chef ou très ponctuellement. Donc on rejoue finalement des valeurs qu'on estime devoir transmettre à la nouvelle génération, faute d'avoir les pratiques au quotidien qui permettent de le faire dans un mode d'apprentissage beaucoup plus fluide. Voilà. J'essaie de conclure là-dessus, si j'ai 2 minutes. Après les profondes mutations que ces groupes ont connues tout au long du XXe siècle, face aux difficultés qu'elles ont encore à endurer ou qui se posent à elles, la pauvreté, une autonomie restreinte, l'exode rural, j'en ai parlé, ces sociétés austronésiennes continuent de se transformer, évidemment, et tentent de se reconstruire dans le contexte qui est celui de Taïwan aujourd'hui, indépendamment des initiatives du pouvoir central, cet État leur accorde aujourd'hui une plus grande reconnaissance. Les jeux sportifs vont constituer, au final, un espace privilégié de la recomposition de leur tissu social, notamment à travers une transmission des savoirs et des valeurs entre générations, ainsi que par la reconnaissance de leur identité spécifique sur plusieurs niveaux, identité en tant qu'autochtone, identité en tant que groupe ethnique, identité en tant que membres de tel village ou de telle communauté religieuse. En s'investissant dans le champ des jeux sportifs, pour les besoins de leur propre la reproduction de leur propre société, et non plus seulement en suivant l'objectif de l'État-nation pluriethnique et pour son rayonnement, les Austronésiens formosans tendent quelque part à essayer de reprendre en main les rênes de leur destin. Les transformations qu'ils font subir à ces pratiques ne sont pas le signe d'un rejet radical de ce qui est extérieur, ni d'une résistance farouche à un supposé modèle capitaliste ou néolibéral. Il s'agirait plutôt d'une forme de négociation, voire de subversion, si on considère que il y a derrière ces réappropriations une dimension volontaire. Par le changement des règles du jeu, les usagers de ces pratiques sont en capacité de mieux les adapter à leurs envies, à leurs besoins, y compris celui d'afficher une certaine différence par rapport aux normes sous-tendues par le jeu initial et dont l'État-nation serait le garant ou le dépositaire, notamment à travers la fédération sportive. Et ce faisant, ce détournement marque le maintien d'une certaine distance avec une autorité contestée du pouvoir central, sans pour autant couper les liens avec ce dernier, garantissant ainsi, quelque part, les moyens nécessaires à la subsistance de leur communauté. Voilà, je vous remercie.
Merci pour ce voyage. On va revenir plus proche de nous, puisque le troisième intervenant est Antonin Mérieux. Et il y représente aujourd'hui l'Association des ludothèques françaises. Et tu vas donc nous parler de ce que vous faites et de ce que vous promeuvez en termes d'enjeux sociaux et d'effets positifs du jeu.
Tout à fait. Alors bonsoir à toutes et tous. Merci à Gaming Lab pour l'invitation. Alors effectivement, je représente ce soir l'Association des ludothèques françaises, mais je tiens à préciser que je suis aussi docteur. Hein. Voilà, on est quand même entre... Ouais, j'ai fait une thèse sur la construction épistémologique de la notion de jeu. Mais bon, donc ce qui est intéressant là de vous parler autour de cette question des enjeux de société, c'est que aujourd'hui la tendance qu'on rencontre assez souvent dans les meet-up du Gaming Lab ou dans d'autres rencontres, etc., c'est qu'on voit beaucoup de gens qui s'expriment, qui sont des joueurs, qui sont passionnés de jeux. Et qui vont essayer un peu de défendre leur passion, d'en montrer l'intérêt, les qualités, etc. Alors que la particularité des ludothèques, du mouvement des ludothèques, ça a été de faire la démarche exactement inverse. C'est parce qu'il y avait un discours favorable au jeu, des théoriciens qui défendaient l'intérêt du jeu, que les ludothèques se sont constituées, et qui en général, elles ont été constituées par des gens qui eux-mêmes n'étaient pas joueurs et voyaient pas pour eux l'intérêt que ça pouvait avoir. Évidemment, la démarche des ludothèques, alors en tout cas en France, s'est orientée plutôt sur le jeu de l'enfant au départ. Alors pourquoi ça s'est passé comme ça ? Il faut resituer un peu dans le contexte. Hein. La première ludothèque en France, c'est 1969. On est 3 ans avant Pong, 5 ans avant Donjons et Dragons. Le Trivial Pursuit n'existe pas, la Bonne Paye n'existe pas. Je vous laisse imaginer à quel point on est loin de concevoir des jeux comme Terraforming Mars ou des choses comme ça. Quoi. Donc, autant dire que le jeu pour adultes était pas tellement un problème à l'époque et en gros à part le Scrabble, les échecs et quelques jeux de cartes hein, comme le poker, il y avait pas grand chose. Alors, je vous parlais de théories qui défendaient l'intérêt du jeu. Évidemment, il s'agit pas de les reprendre. Ça a déjà été fait par d'autres personnes. Je pense notamment dans jeux éducation. Hein. On entend parler de plein de théoriciens, mais même s'il y en manquerait probablement. Et puis, quand on commence à parler des théories du jeu, il y a toujours la question de savoir jusqu'où on remonte. Est-ce qu'on est obligé à chaque fois de convoquer les philosophes grecs et puis ensuite de redescendre, faire le Moyen-Âge avec Thomas d'Aquin, etc. Puis la Renaissance, Rabelais, puis Rousseau, puis Schiller, etc. Bref, il y a beaucoup de gens qui ont mis en avant le fait que le jeu pouvait être intéressant, mais ils n'avaient pas forcément tous la même vision de ce qu'était le jeu, pas la même vision de ce qu'était l'éducation, et pas la même vision de quelle pouvait être la place de l'individu dans la société, ce qu'on avait comme projet de société. À la LF, on a donné une définition du jeu. Alors, qui n'est pas une définition qui a la prétention d'expliquer tout ce qu'on appelle jeu, mais qui est davantage un positionnement. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous, il nous paraît intéressant de défendre, de promouvoir, hein, comme tu as dit, pour que ça puisse avoir un intérêt sociétal pour tout le monde. Quoi. On pourrait parler d'intérêt général, de bien public, etc. Et alors la définition qu'on donne, elle est très classique, hein, elle reprend des critères du jeu qui ont été mis en avant par Kaiwa, Huizinga, Gilles Brugère, etc. Donc on dit que le jeu doit être libre, gratuit, une petite nuance sur cette notion de gratuité, fictif, réglé, etc. Enfin incertain, mais ça c'est moins important quand même. Et pourquoi on dit ça ? Parce que on pense que c'est ces caractéristiques-là qui font que le jeu présente un intérêt à être promu dans la société. Pourquoi ? Parce que une idée importante chez tous ces penseurs qui ont parlé du jeu, c'était celle que c'était bien que l'individu, en l'occurrence surtout l'enfant, et des moments où on le laisse un peu faire ce qu'il veut sans être derrière lui et lui donner des consignes. C'est la vision qu'avait notamment un médecin pédiatre et pédagogue qui s'appelle Janusz Korczak, enfin qui s'appelait Janusz Korczak, hein, c'est, qui était polonais, qui notamment s'est occupé d'un orphelinat dans le ghetto de Varsovie. Et il avait cette citation. Alors, il avait une vision un peu négative du jeu, hein, paradoxalement. C'est-à-dire que, il disait, le jeu, c'est moins le paradis enfantin que le seul espace où nous leur laissons un peu de liberté d'initiative. C'est-à-dire que c'était un peu, ils peuvent rien faire, mais au moins, ils ont encore le jeu où on leur laisse faire un peu ce qu'ils veulent. Alors, je vous laisse imaginer la tête que ferait Korczak aujourd'hui s'il voyait toutes les applications ludo-éducatives qu'on propose aux enfants. Pourquoi il y avait cette idée que c'est important de laisser des espaces d'autonomie et de liberté ? Alors déjà, il y a une question de projet de société, comme je vous le disais. C'est-à-dire que vous comprenez que quand on est dans le ghetto de Varsovie, on peut trouver ça important que les individus puissent disposer d'une certaine marge de liberté et d'autonomie. Mais même aujourd'hui, c'est une question qui reste totalement d'actualité. Et ça répond à une certaine vision qu'on peut avoir du vivre ensemble, c'est-à-dire une vision politique. Et comme les ludothèques et l'association des ludothèques françaises se réclament du mouvement de l'éducation populaire, pour nous, c'est important, effectivement, d'envisager une société où les individus soient au maximum acteurs de leur propre vie. Alors ça, c'est une dimension sociétale, hein, l'enjeu de voir le jeu de cette manière. Il y a aussi une vision beaucoup plus pragmatique, plus éducative au sens classique du terme, qui est que quand on joue, on fait quelque chose, on est acteur, on accomplit quelque chose. Et donc forcément, ça sollicite tout un ensemble de capacités, de fonctions. Alors après, peu importe comme vous les nommez, hein, selon le paradigme auquel vous vous référez, vous avez parlé de fonctions cognitives, sociales, émotionnelles, langagières, sensorimotrices, techniques, etc. Il peut y avoir plein de manières différentes, de terminologies différentes pour qualifier tout ça. Le fait est que jouer, ça vous oblige à faire quelque chose et faire appel à ces fonctions-là. Alors aujourd'hui, les neurosciences en font un peu tout un foin, hein, mais en disant « oui, on a découvert que jouer à tel type de jeu, ça stimulait ceci, ça stimulait cela », mais en fait, c'est d'une platitude totale et on est presque dans la tautologie, c'est-à-dire qu'il s'agit de dire « en fait, on a découvert que quand vous faites quelque chose, vous mobilisez les parties et les réseaux de votre cerveau qui servent à faire cette chose-là ». Quelle découverte, on s'en serait jamais douté. Bref. Donc, le jeu a des effets sur le joueur, dont celui auquel on pense ou qu'on oublie peut-être le plus souvent, qui est tout simplement le plaisir. Alors, le mot plaisir est un peu réducteur, on pourrait discuter, il y a plein de choses que ça recouvre, plein de types de satisfaction qu'on peut avoir dans le jeu. On peut pas le réduire à une seule forme, mais en tout cas, c'est bien un effet que produit le jeu. Et qui n'est pas anodin, parce que c'est cet effet-là qui va faire la différence entre, certes, quand on joue, donc on mobilise des capacités, mais vous allez me dire, c'est exactement la même chose si on fait faire un exercice à quelqu'un. C'est-à-dire, si on joue, par exemple, au volley à deux ballons, ou si on doit faire un exercice de gymnastique, dans tous les cas, ça va faire appel à des exercices de coordination, d'équilibre, de précision, etc. C'est ce qui va faire la différence entre les deux, c'est la motivation. Et là, je me référerai à une théorie de psychologie qui est la théorie de l'autodétermination, qui fait la différence, même si la terminologie est pas très bien trouvée, entre les motivations intrinsèques et extrinsèques. Et je crois que ça rejoint d'assez près tes questions de joueur de poker. Alors, qu'est-ce que c'est, ces motivations intrinsèques et extrinsèques ? Motivation intrinsèque, c'est quand l'envie de faire l'action vient de nous-mêmes et que on trouve le plaisir simplement dans le fait de réaliser cette action. C'est moi qui ai envie de jouer et je prends du plaisir à jouer à ce jeu. Les motivations extrinsèques, c'est déjà quand ça nous est un peu imposé de l'extérieur. Et quand la satisfaction va être indirecte, par exemple, c'est le fait de devoir, travailler sur une chaîne de montage à l'usine, c'est pas en l'occurrence le fait d'être sur la chaîne de montage qui est satisfaisant, c'est le fait d'avoir recevoir un salaire à la fin du mois et de pouvoir vivre avec. Et ça fait toute la différence à plein de niveaux. Alors, si vous connaissez un peu le Mihail Csikszentmihalyi, qui parle d'autotélisme à propos du jeu, c'est l'autotélisme, ça, une autre manière de dire la même chose que ses motivations intrinsèques. Hein, ça revient à la même chose. Et donc, selon le type de motivation, on constate que les effets ne sont pas du tout les mêmes. Alors encore une fois, c'est des protocoles expérimentaux, etc. Si vous, donc on peut démontrer aujourd'hui, si vous étiez persuadé du contraire, que quand quelqu'un est intéressé par quelque chose, il va beaucoup mieux apprendre que si ça l'intéresse pas du tout. Voilà. Si vous aviez besoin de preuves, elles existent. Donc ça facilite l'apprentissage quand on est motivé pour directement par ce qu'on fait. Ça facilite aussi les sentiments d'épanouissement et d'accomplissement de soi. Et là-dessus, il y a notamment, je crois que c'est un anthropologue qui s'appelle Peter Gray, qui a travaillé sur, enfin qui a mis en évidence des corrélations entre le déclin du jeu libre et l'augmentation des psychopathologies chez les enfants et les jeunes adolescents. Donc corrélation, ça ne veut pas dire forcément qu'il y a un rapport causal, mais il suggérait qu'il y avait quand même des pistes qui pourraient laisser penser à un lien directement causal entre les deux. Donc, voilà pourquoi ça nous semble intéressant de défendre une vision du jeu qui parte de la liberté du joueur, de la gratuité du jeu. C'est-à-dire, par gratuité, on entend quoi ? On entend le fait que c'est le jeu... Alors, on entend des fois l'expression « le jeu pour le jeu », mais c'est pas vrai. C'est le jeu pour le plaisir de jouer. Et quand on dit le jeu pour le plaisir de jouer, comme je vous disais, plaisir, ça peut vouloir dire plein de choses. On peut avoir une vision très naturaliste du plaisir, simplement le réduire à des hormones comme la dopamine, par exemple. Hein. Donc, il y a des jeux comme ça qui sont très simples, qui sollicitent quasiment aucune compétence. Alors, je pense, par exemple, des jeux sur téléphone ou sur tablette où vous avez juste à aligner des motifs. Donc un truc qui est quand même pas très compliqué. Et dès que vous avez aligné un motif, ça fait des tas d'effets, ça vous dit des bravos, des super, des encore, des t'es génial, tout ce que tu veux. Et donc là, bah voilà, il y a une petite gratification. Donc c'est des jeux qui sont simplement, dont l'intérêt repose que sur un système, on va dire, très primaire de production hormonale de récompense. Vous comprenez qu'on peut pas tout réduire à des systèmes aussi simples. Hein. Par exemple, je sais pas, quand on fait une partie d'un jeu complexe qui dure plusieurs heures, bah c'est pas la petite décharge de dopamine qu'on peut avoir à la fin qui fait qu'on va y passer 5 heures sur le même jeu. Donc il y a d'autres modes de la satisfaction qui expliquent aussi pourquoi on n'aime pas tous les mêmes jeux, parce que l'intérêt que certains vont trouver, ça va être le côté de se retrouver en communauté, en famille par exemple, et peu importe à quoi on joue. Si vous êtes avec des amis avec qui vous entendez super bien et qu'en plus tout le monde a un peu bu, vous pouvez jouer à n'importe quel jeu, même aux petits chevaux, vous allez vous éclater parce que l'ambiance est là. Et pour d'autres personnes, ce qui compte, c'est de gagner. Peu importe le jeu, si je gagne pas, je serai pas content. Pour d'autres personnes, ça va être les jeux, le fait de suivre une histoire, les jeux narratifs, etc. Donc différents modes de la satisfaction dans les jeux. Et par contre, un mode qui est quand même assez important et qui revient assez régulièrement, c'est que on trouve du plaisir dans le jeu. Encore une fois, c'est Mihail Csikszentmihalyi qui parlait de ça, hein, avec la théorie du flow dont vous avez sûrement déjà entendu parler. On trouve du plaisir parce que le jeu nous amène précisément à solliciter nos compétences. Voilà, proportionnellement, enfin avec un niveau de difficulté proportionnel à ce dont on est capable. Et là, vous voyez comment les deux visions se répondent l'une à l'autre. C'est-à-dire que d'un côté, on dit oui, le jeu, comme on éprouve du plaisir à le faire, ça développe nos compétences. Et de l'autre côté, on dit oui, le jeu nous donne du plaisir parce que il sollicite nos compétences. Donc c'est totalement symétrique et ça fonctionne ensemble. Donc c'est pour ça sans doute que ça marche pas trop mal. Alors après, encore faut-il effectivement trouver des contenus qui donnent envie de mobiliser des compétences, et c'est, je dirais, tout l'enjeu de la création ludique aujourd'hui, hein, de produire des jeux qui donnent envie de s'y intéresser. Alors le problème, c'est que cette vision du jeu que je vous présente et qu'on défend à l'ALF, aujourd'hui on constate qu'elle est un peu menacée. par le glissement un peu de la vision du jeu, l'évolution de la représentation du jeu, etc. L'époque dont je vous parle quand je vous parle de la création des ludothèques, hein, donc les années 70, le début des années 80, bah, effectivement dans le monde ludique il s'est passé quelque chose d'assez significatif à ce moment-là, une révolution majeure qui a été l'arrivée du jeu de rôle, accompagnée de petites évolutions mais beaucoup moins importantes en termes d'innovation qui sont le développement du jeu vidéo et du jeu de société. Donc ça, c'est pour le côté qu'est-ce que le jeu, hein, la représentation qu'on pouvait avoir du jeu qui arrivait à ce moment-là. Alors, on a pu reprocher aux ludothèques d'avoir un peu raté cette révolution. Ils l'ont pas raté, ils l'ont prise un peu en retard pour certaines, mais il y en a d'autres qui ont été très à la pointe dès le début, hein, dès les années 80. Je pense notamment, par exemple, à la ludothèque de Boulogne-Billancourt, qui a un concours de création de jeux de société qui existe depuis 1980 et qui a été, dès le départ, très pertinent comme analyse et comme reconnaissance de la qualité des jeux. Alors, cette révolution ludique, elle s'est accompagnée de plusieurs choses. D'une part, bah, il y avait un besoin croissant de justification de la part des joueurs. Il y a eu aussi un discours commercial qui s'est développé, parce que comme il y avait une offre de jeux qui s'est offerte, il fallait pouvoir les vendre aussi. Et c'est aussi une période qui a été marquée par le triomphe de l'idéologie capitaliste depuis les années 90, enfin 80-90 jusqu'à aujourd'hui. Et tous ces éléments font qu'on est passé d'un discours sur la valeur du jeu pour l'épanouissement de l'individu, donc qui est devenu un discours sur l'utilité des jeux en tant que produit pour l'épanouissement de l'économie de marché. Et donc aujourd'hui, le discours sur le jeu, c'est de dire « Ah, achetez nos jeux parce qu'ils sont éducatifs, parce qu'ils vont vous apprendre des choses. Achetez nos prestations de team building parce qu'elles vont booster vos entreprises, etc. » Donc vous voyez qu'on s'est un petit peu éloigné de l'objet qui était précédemment considéré comme intéressant pour le jeu. Alors, on pourrait aussi évoquer le fait que, notamment dans le jeu de société, il y a une certaine édulcoration des thèmes qui soit passée, hein, depuis le Landlord's Game, donc l'ancêtre du Monopoly qui visait à critiquer justement les dérives du système capitaliste, ou des jeux comme Vertigo. Aujourd'hui, ben, je sais pas si vous voyez ce que c'est comme jeu. Hein, c'est un jeu où c'était du semi-coopératif. On construisait des usines et on avait le choix, on pouvait construire des usines polluantes ou non polluantes. C'était beaucoup plus rentable de construire des usines polluantes. On gagnait beaucoup plus d'argent. Le problème, c'est que si à la fin de la partie, la terre était détruite, tout le monde avait perdu. Et donc, ça obligeait un peu aussi à se mettre sur non polluant à un moment. Bon, vous voyez que ça pourrait être, enfin, c'était d'actualité, ça le serait toujours, mais on voit moins de jeux comme ça aussi. Aujourd'hui, le maximum de la subversion dans un jeu, c'est quand vous proposez un thème avec des pirates, quoi. Voilà. Là, on atteint le maximum de ce qui est faisable. Donc, d'où la défense d'une certaine idée du jeu, comme je vous disais, à la LF. Alors, encore une fois, hein, on n'est pas en train de dire le jeu, c'est uniquement ça. On dit ce qui est intéressant de défendre, c'est ça. Et nous, on appelle ça du jeu. Bon, peut-être que si dans quelques années, il y a 3 millions de ludothécaires et qu'ils ont des kalachnikovs, on aura un discours un peu plus offensif sur ce qu'on doit appeler jeu ou pas. Mais pour l'instant, on a juste l'exigence, en tout cas, d'arrêter un petit peu d'être dans le confusionnisme, c'est-à-dire de transposer l'intérêt que peut avoir une certaine idée du jeu sur des pratiques dites ludiques, mais qui sont, elles, plutôt nocives pour les individus. Je pense à quoi ? Je pense à le jeu éducatif, la gamification, la plupart des serious games, les jeux d'argent. Alors quand je dis jeux d'argent, c'est pas le poker, c'est plus tout ce qui va être jeu à gratter, loterie, paris sportifs, etc. Donc là où on est plus, pour le coup, dans des problèmes de santé publique que dans des problèmes d'épanouissement de l'individu. Alors sans jeter la pierre, hein, parce qu'il y a peut-être des gens parmi vous qui se retrouvent dans ce type de situation, hein, on a bien conscience qu'il y a beaucoup de gens qui sont des joueurs passionnés et qui, pour pouvoir vivre de cette passion à un niveau professionnel, bah, se sont engagés là-dedans, et c'est tout à fait compréhensible. C'est exactement la même chose d'ailleurs pour les organismes de recherche, hein, qui pour avoir de l'argent et pour pouvoir exister sont obligés de se faire financer par des lobbies comme la Française des Jeux. Donc il y a cette dimension économique qui est un petit peu regrettable. Ce qui est regrettable aussi, c'est le sentiment qu'on retrouve fréquemment de manque de légitimité à proposer du jeu. C'est-à-dire qu'on a l'impression que pour avoir le droit de défendre le jeu, il faut montrer qu'il est utile à quelque chose. Alors, je vous invite à imaginer aussi, faire un autre exercice d'imagination. Imaginez Marcel Proust en train de dire « Oui, j'ai écrit La recherche du temps perdu pour que les lecteurs puissent augmenter leur vocabulaire, pour qu'ils puissent améliorer leur performance en temps de lecture et développer leur capacité d'attention. » Ce serait évidemment génial. Il serait sans doute beaucoup plus lu qu'il l'est aujourd'hui en le vendant comme ça. Et donc, la question, c'est de dire, ça vous paraît absurde de défendre la littérature comme ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on le fait avec le jeu? C'est toute la question. Donc, pour conclure, je dirais que si, en tant que professionnel ou passionné de jeu, vous croyez en ce que vous faites, vous n'avez pas besoin de vous justifier par autre chose que par la qualité de l'expérience que vous proposez. Donc, c'est cette expérience qui est à la fois le contenu du jeu et la dimension autotélique, pour le dire en un seul mot, de l'acte de jouer, qui va donner la qualité, et qui va constituer l'intérêt sociétal du jeu, et pas autre chose. Merci.
Très bien. On a fait une petite heure comme prévu de présentation des différentes positions et travaux des trois intervenants. L'idée après, c'est d'avoir une suite de séances un peu plus interactive. Donc, je ne sais pas si parmi vous, certains ont déjà des questions. Pour les questions, vos questions, ce qu'on va faire, comme vous n'avez pas de micro, soit vous vous levez, vous venez parler au micro, soit vous prononcez votre question à voix haute et je la répéterai dans le micro pour le podcast. Est-ce que je vais essayer de reformuler donc très rapidement? Est-ce que tu as observé, Jérôme, sur le terrain, à Taïwan, des jeux qui seraient moins institutionnalisés, moins rigides, moins compétitifs, plus ambigus, plus ouverts?
Ok. Alors déjà, pour comprendre ou recontextualiser la recherche, si je l'ai mal fait tout à l'heure, c'est que je m'intéresse initialement au sport. C'est mon entrée première. Donc, j'assiste plus spécifiquement à des compétitions dites sportives. Et donc, bien souvent, c'est la marche inverse que j'observe. Pour le coup, en non compétitif, et ambigu, le dernier cas décrit, celui du volleyball chez les presbytériens, est complètement ambigu et la notion de compétition est complètement bouleversée. Vous avez effectivement une compétition avec des équipes qui jouent, qui gagnent, qui perdent, effectivement. On sait qui a gagné, qui a perdu, mais... Encore une fois, c'est sans doute ce qui est un peu transversal à nos présentations, peut-être. Il y a une question d'intentionnalité derrière. Et la compétition, pour le coup, n'en fait pas du tout partie. Ce n'est pas la valeur qui est défendue. Au contraire, on va tout faire pour que, dans cette atmosphère de mise en concours de personnes par équipe, eh bien, en fait, on dégage uniquement ce qui est de l'ordre du ludique non compétitif. Et pour décrire des choses un peu plus en détail, si jamais quelqu'un prend le jeu un peu trop au sérieux et montre beaucoup d'engagement, ça va être toléré jusqu'à un certain point. Il faut laisser les autres aussi s'amuser, et gagner ou perdre n'est finalement pas l'objectif, vu qu'à la fin, on récompense tout le monde de la même manière, histoire de bien rappeler qu'on n'est pas là pour désigner un gagnant, un perdant, mais pour rejouer au final... la communauté et sa solidarité. Donc là, on prend complètement à contre-pied, justement, l'idée de compétition dans un sport. Et c'est quand même un tour de force de le faire avec une pratique, en l'occurrence le volleyball, qui est née comme ça, parce que c'est un sport de commande, le volleyball. Il a été créé de toutes pièces, par un ordre religieux protestant aussi, par la YMCA. Donc vous avez un jeu sportif, compétitif de commande, qui est tourné par la même communauté un siècle plus tard comme quelque chose qui est non compétitif. Pour ce qui est de choses plus ludiques, etc., j'ai observé des jeux, notamment dans le deuxième événement, donc ce rassemblement qui a lieu tous les deux ans chez les Bounoun de dialecte Takitudu, des jeux en fait où on demandait à des groupes d'enfants de recomposer des pièges de chasse à base de pierres, de minéraux et de végétaux. Voilà. Et donc le but, c'est de créer des groupes où on reconstruit ça. Et c'est conçu comme un jeu. Il y a un peu de compétition derrière, qui va réussir à le faire le plus vite, qui va réussir à le faire le plus efficacement possible. Mais l'idée, en gros, c'est de montrer comment on faisait des pièges improvisés avec ce qu'on avait sous la main, à savoir du bois et de la pierre. Voilà. Donc voilà. Par ailleurs, il existe d'autres types de jeux de société, mais ceux-là, je ne les ai pas vraiment étudiés. Je commence un peu à m'y intéresser. On commence à m'offrir des jeux parce que on rentre quand même dans une économie capitaliste aussi chez ces populations-là. Et donc, il y a des éditeurs de jeux locaux qui sont en train d'en créer des boîtes, avec des règles, etc. Et donc, on reformalise, on réinstitutionnalise des jeux de type de société, pas forcément compétitifs du coup, mais qui ont été créés ou auraient été créés par tel ou tel groupe autochtones. Voilà. Mais ça, c'est à venir. Voilà. Pour le coup, je m'amuse d'abord avec ce qui est plutôt sportif à la base et je vois ce qu'on en fait. Mais voilà. J'espère avoir répondu à la question, en tout cas.
Est-ce qu'on n'en profiterait pas pour élargir la question à Aymeric et toi?
Oui, effectivement, je veux bien aussi rentrer sur cette question de la compétition, parce que ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est on va dire un contexte de jeu particulier, le contexte de ces parties privées entre amis, où effectivement on joue à un jeu de compétition. Pour reprendre les termes de par le bas, on pourrait parler d'une logique interne structurée de cette manière-là, autour d'un affrontement de tous contre tous. Et pour autant, le contexte de la pratique fait que le jeu est reconfiguré d'une autre manière, et que effectivement le fait qu'on soit dans un contexte où la convivialité, l'amicalité prime, a des effets, j'allais dire, y compris, alors peut-être pas sur la structure du jeu, mais en tout cas sur la façon dont les joueurs s'approprient cette structure. Je prenais l'exemple de la circulation de l'argent à l'intérieur du jeu, c'est-à-dire qu'en fait, quelque part, ils sont presque forcés, étant donné le contexte, de perdre à tour de rôle, parce que si il y en a un qui gagne toutes les parties à chaque fois, on se retrouve dans une situation de crise, en quelque sorte, de crise du jeu, ou plutôt de crise du contexte du groupe. Et donc, il me semble, c'est l'exemple du volet à deux ballons l'illustre aussi, il me semble que, alors, soit en modifiant la structure, enfin la logique interne du jeu, soit par le fait même du contexte, on peut effectivement faire de jeux, enfin à partir des jeux de compétition, une pratique entre guillemets collaborative. En tout cas, il me semble que l'exemple que tu prends est assez intéressant et montre bien que effectivement, alors là, tout le monde participe, les spectateurs aussi, si j'ai bien compris. Et ça, c'est des choses qu'on peut retrouver aussi dans ces parties de poker, c'est-à-dire finalement le spectateur peut s'investir dans la partie aussi. Quand il sort du jeu, il continue d'observer le jeu. Il est là de différentes manières. Ça aussi, ça montre bien, c'est une rupture intéressante, la rupture entre joueur et spectateur, pour montrer la présence d'une compétition. Or, quand cette rupture, elle est un peu plus faible, ou elle peut être, enfin, la séparation peut être un peu mise en cause, on voit des effets, on constate effectivement que la compétition est peut-être se délite, ou en tout cas, elle est reconfigurée d'une autre manière. Voilà. Peut-être le terme reconfiguration me semble plus approprié.
Si je peux rebondir vite fait sur ce qui vient d'être dit, pour quelqu'un qui travaille surtout sur les sports, cette distinction entre spectateur et pratiquant est vraiment fondamentale. Les sports, tels qu'on les connaît aujourd'hui, sont nés de la construction de cette distinction entre deux catégories. Si on remonte au milieu du 19e siècle et dans les public schools anglaises, où vont être formalisés bon nombre de pratiques sportives, le rugby, le soccer, le football, etc. Voilà. Cette formalisation des pratiques qu'on connaît comme sportives aujourd'hui s'est constituée prioritairement sur la création d'une distinction entre les pratiquants, ceux qui avaient le droit de rester sur le terrain pour déplacer le ballon, et ceux qui allaient devoir, qui ne pourraient plus le toucher. Parce qu'à la base, tout le monde était invité à participer, à prendre le ballon pour essayer de l'emmener d'un point A à un point B dans un en-but, etc. Donc il y a vraiment cette idée matricielle dans la constitution du système sportif de créer une distinction entre, une première distinction entre spectateurs et sportif, athlète, et après, par la suite, une spécialisation des tâches sur le terrain quand on est dans des jeux collectifs. Là, pour le coup, c'est ce que je voulais montrer avec le volleyball aussi, on est dans la déconstruction de cette idée, puisque même ceux qui ne peuvent pas participer participent en recevant le même prix à la fin, donc les spectateurs font partie du jeu en encourageant, et donc ils ont un aspect dynamique dedans. Tout le monde peut venir prendre part, le nombre de joueurs par équipe peut varier en fonction de ce qui se passe, de qui arrive, etc. Donc on est vraiment dans une dimension beaucoup plus ludique, beaucoup plus libre. On a comment dire, avec le volleyball à deux ballons, ce n'est pas introduire un écart réglementaire qui est intéressant, parce qu'on peut se réapproprier les règles du jeu tout en restant dans un modèle sportif. Non, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est qu'ils font voler en éclats toute la logique interne, non pas du jeu de volleyball lui-même, mais du système sportif en particulier, y compris la dimension compétitive. Voilà. En introduisant vraiment un objectif différent. Du coup, je ne peux pas vraiment parler de sport pour le volleyball à deux ballons. C'est un jeu communautaire, définitivement, pour moi. Voilà.
Antonin ?
Alors oui, sur cette question de la compétition et de la coopération, je rejoins assez ce que tu dis par rapport au genre de poker. C'est-à-dire qu'on peut avoir une vision simpliste que, en gros, la compétition, c'est méchant et la coopération, c'est gentil. En réalité, dans les faits, on voit que ce n'est pas du tout le cas et que ça va plutôt être une question d'ambiance du groupe et de rapport entre les joueurs qui va avoir ça. C'est-à-dire que vous avez des jeux coopératifs où vous n'atteignez pas l'objectif du jeu et que c'est à cause de vous, ça va très très mal se passer pour vous à la fin. Vous allez être un peu le bouc émissaire, celui à cause de qui on a perdu, etc. Alors qu'inversement, dans des jeux compétitifs, pour pouvoir je parle un peu du cas des enfants, hein. Souvent ils aiment pas perdre, etc. Et je dirais que c'est accepter que l'autre, lui reconnaître le statut de vainqueur et de pouvoir gagner, c'est une étape indispensable dans la construction des relations sociales. Donc la compétition est aussi extrêmement importante à ce niveau-là, parce qu'on considère l'autre comme un pair et qu'il a ses chances de gagner tout autant que nous.
Très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ? Je vais quand même essayer de synthétiser, ça va pas être simple, hein, vous m'avez pas facilité la vie. Du coup, je vais essayer de résumer en deux phrases. Le jeu aujourd'hui a connu légitimisation, on va dire comme ça, on l'observe tout doucement, et pourtant on cherche encore, comme tu l'as dit Antonin, beaucoup à lui trouver des avantages hors du jeu pour continuer ce processus. Contrairement à d'autres arts qui ne sont pas questionnés de la sorte, est-ce que tu penses qu'on va arriver à un moment donné pour le jeu et pour le jeu de société en particulier ou pour le jeu vidéo à s'intéresser au contenu même de cet objet culturel et pas à ses avantages externes?
Alors oui, effectivement, la remarque est bonne. Alors c'est un peu plus vieux que ça. En réalité, ça remonte au début du XXe siècle, hein, l'idée du jeu éducatif qui sert à apprendre, voire même plus loin. C'est toujours pareil. On trouve toujours des références plus anciennes. Et effectivement, alors j'étais à Cannes aussi au festival, hein, j'ai bien senti aussi cette tendance. Du côté des ludothèques, comme je l'exposais, hein, c'est vraiment parti de là. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu de ludothèque s'il n'y avait pas eu un intérêt dans les effets du jeu qui avait été mis en avant. Donc là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. Et paradoxalement, c'est aujourd'hui, pour une bonne part, les ludothèques, alors pas que, hein, y a quand même beaucoup d'auteurs de jeux qui sont sur cette défense-là aussi, qui vont mettre en avant le fait qu'on va devoir s'intéresser non pas au jeu pour ce que indirectement il apporte, que c'est pas le bon moyen de le légitimer, que le bon moyen de le légitimer, c'est de mettre en avant ce qu'il est, la richesse de ce qu'il propose comme expérience. Alors, je pense que c'est quand même quelque chose qui est en train de se faire aussi. Il suffit de regarder sur des forums comme je pense à Board Game Geek par exemple. Il y a une réflexion sur le jeu qui s'est construite en dehors d'un cadre universitaire, en dehors aussi d'une nécessité d'avoir à se légitimer sur des enjeux de société. C'est des gens qui sont passionnés, qui se parlent entre eux, et du coup ils ont un discours qui est effectivement beaucoup plus qui touche beaucoup plus le fond de ce qu'ils défendent que des préoccupations annexes. J'espère que ce type de discours va se développer, se conforter. Et pour ça, je pense qu'il y a effectivement une vraie démarche à faire de la part des joueurs, de la part des créateurs de jeux, enfin de la part du monde du jeu en général, pour aller dans ce sens-là et d'arrêter de chercher des justifications externes pour défendre ce qu'on fait. Je pense qu'il y a un mouvement global qui pourrait s'initier et qui ferait qu'on pourrait enfin arriver à ça.
Aymeric.
Oui, je voulais aussi réagir là-dessus, parce que c'est vrai qu'on a parlé de beaucoup de l'intérêt à défendre. Enfin, c'est le terme que tu utilisais, je crois, dans ta présentation tout à l'heure. Intérêt à défendre certains jeux pour lesquels on pourrait avoir un intérêt au-delà de l'intérêt de la recherche, par exemple. Bon, dans mon cas, par exemple, vous évoquiez le colloque du GIS Jeux et Société. Quand on parle de jeux d'argent, le processus de légitimation ou de légitimisation, je sais pas le terme que vous voulez utiliser, est loin d'être évident. Enfin, en réalité, sur la question des jeux d'argent, la question centrale, c'est la question de l'addiction. Et donc, concrètement, c'est plutôt si on parle de pratiques culturelles ou de produits culturels, là la question c'est pas de défendre le produit en quelque sorte, mais plutôt d'essayer de l'aborder autrement. Moi ça a été mon objectif dans le cadre de ma thèse, c'était d'aborder la question d'un jeu d'argent, un jeu d'argent particulier, qui alors là je m'écarte un peu de ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais bon, les jeux d'argent sauf le poker, moi je dirais que c'est quand même un jeu d'argent et donc qu'il faut le situer dans cette catégorie là mais voilà, enfin clairement mon objectif c'était d'aborder les choses alors à contre-courant du coup. Moi c'était pas de valoriser les apprentissages, c'était de voir d'une part comment ils apprennent à jouer. Ça, c'est ce que j'ai expliqué dans ma présentation. Donc, comment ils s'engagent progressivement dans la pratique. Et par le biais de ce processus d'engagement progressif dans la pratique, on voit qu'ils apprennent. Ils apprennent quoi? Ils apprennent d'abord à jouer le jeu. C'est la première chose qu'ils apprennent. C'est déjà pas mal. Et ce faisant, potentiellement, on peut dire qu'ils apprennent non pas autre chose, mais ils apprennent des choses qui pourraient leur servir ailleurs. Alors c'est la question des transferts d'apprentissage, le transfert de compétences. C'est une question complexe, mais disons que on voit malgré tout, sans voilà chercher à valoriser les choses, simplement à les observer de façon presque empirique, je dirais. En tout cas, parce qu'observer empiriquement des apprentissages, c'est pas facile, mais en tout cas, essayer d'interroger les joueurs sur leurs apprentissages. Alors quand on interroge les joueurs de poker sur leurs apprentissages, qu'est-ce qu'ils ont appris? En jouant au poker, la réponse c'est rien. On a appris à jouer, c'est tout. On n'a rien appris d'autre. Mais si on creuse un peu, et ça a de l'intérêt, il y a un intérêt à creuser un peu la question. On se rend compte qu'en fait, il y a si ce n'est des transferts d'apprentissage, au moins, je sais pas, des réminiscences de pensées, d'images du poker qui peuvent avoir été utiles dans leur vie. Je prends souvent un exemple. Gilles, désolé si tu l'entends à chaque fois, mais c'est l'exemple d'un joueur qui raconte comment en fait le fait de jouer au poker lui a servi à mieux négocier dans certaines situations marchandes dans la vie quotidienne. Alors c'est par exemple la personne en question, c'était quelqu'un qui achetait un canapé et qui me disait qu'il avait réussi entre guillemets à lire les tels de la vendeuse et en lisant donc ces indices corporels qui lui permettraient de voir ce qu'elle avait en tête et le prix qu'elle aurait qui était en fait le vrai prix du canapé qu'elle avait un peu surestimé, et ben il a réussi à acheter ce canapé à la baisse quelques années plus tôt. j'avais interrogé un joueur amateur qui était lui vendeur de canapés et qui m'avait raconté de quelle manière il utilisait le poker entre guillemets comme une espèce de technique de vente quoi. L'autre apprentissage que j'avais observé, c'est l'apprentissage des mathématiques, des probabilités. Alors on peut dire c'est valoriser ou survaloriser les apprentissages du jeu que de dire que les joueurs de poker apprennent les probabilités via leur pratique, mais oui, ils apprennent à utiliser des probabilités. Alors la question, c'est de savoir quelle forme ça prend. C'est un usage des mathématiques qui est tout à fait différent de celui qu'on apprend à l'école, clairement. Ça n'a rien à voir. C'est tourné vers une utilité directe. Il ne s'agit pas d'ailleurs de retenir la procédure, mais le résultat, en fait. C'est savoir, comme lors d'une partie de poker, les joueurs de poker connaissent pas les formules mathématiques qui leur permettent de prendre une décision. Ils connaissent le résultat. Ils savent, par exemple, quelle est la probabilité de gagner quand on a une paire d'as dans les mains, et ça leur suffit. Enfin, il n'y a pas besoin d'en savoir beaucoup plus. Et c'est ce système-là qu'ils peuvent utiliser dans leur vie quotidienne, des espèces de représentation mentale de la probabilité de chance, de gain dans telle ou telle situation. Voilà. Et ce qui leur permet de prendre des décisions plus facilement. Voilà. Enfin. Tout ça pour dire que concrètement, ça dépend de quel jeu on parle en fait. Quand on parle des jeux d'argent, le processus, on peut pas difficilement, en tout cas, parler de légitimation. On va plutôt essayer de corriger une vision peut-être un peu déformante de ces pratiques parce qu'on les voit toujours sous le prisme de l'addiction, quoi.
Autre question ?
Pour essayer de résumer, est-ce que les efforts d'extrapolation des bénéfices du jeu ou des sports dans justement l'industrie ou enfin d'autres domaines que le jeu pur, est-ce que c'est nécessairement néfaste à la légitimité du jeu en tant que tel, ou est-ce que ça peut être séparé en fait d'avoir le jeu qui a sa légitimité propre, mais qui à la fois, c'est prouvé par la recherche maintenant, a beaucoup d'effets qui peuvent être utilisés à l'extérieur.
Alors le problème, comme souvent, on en revient souvent à ça, c'est un problème de qu'est-ce qu'on met derrière le mot jeu. Nous, je vous l'ai dit, on a un positionnement par rapport à ça. C'est-à-dire que pour nous, si c'est pas libre, si c'est pas gratuit, donc si une recherche d'effets déterminée à l'avance, c'est pas du jeu. Effectivement, on peut tout à fait employer d'autres caractéristiques qui pourraient être utilisées comme constitutives du jeu dans d'autres domaines. Je pense par exemple à la simulation. La simulation, c'est un principe qu'on retrouve dans le jeu, qu'on retrouve dans des éléments qui ne sont pas du jeu. Quand vous faites un exercice incendie, à ma connaissance, personne n'a jamais appelé ça un jeu, mais maintenant on en viendrait à appeler ça un serious game d'exercice incendie. Le problème, c'est que d'utiliser le même mot pour défendre, parler de choses qui présentent des caractéristiques différentes, c'est trompeur. Et l'enjeu, effectivement, c'est pas qu'une question de légitimation, c'est aussi une question de manipulation. C'est qu'on retrouve énormément dans la gamification. C'est-à-dire que si vous refusez de vous soumettre à une évaluation en entreprise, dites, voilà, on va évaluer les salariés, tout ça, du coup, vous allez voir les syndicats, vous mettez d'accord ensemble, vous refusez, vous êtes contre, et vous attirez un certain capital de sympathie, de résistance à ça. Si on vous dit, on va faire un jeu tous ensemble, voilà, ce sera sympa, c'est pour dynamiser l'équipe, etc. Vous savez pertinemment que vous allez être évalué sur ce jeu, mais vous pouvez pas dire moi je suis contre le jeu. Ça se fait pas d'être contre le jeu, c'est mal vu. Du coup, c'est vous qui allez vous attirer des inimitiés pour avoir eu ce positionnement-là. Après, pour revenir sur des visions utilitaires, effectivement, on dit il y a des serious games qui servent pour des bonnes causes, pour l'éducation. Hein. J'ai vu des trucs sur la gamification, par exemple, des programmes scolaires. Et ça renvoie à ce que je vous disais à propos des motivations intrinsèques et extrinsèques. C'est-à-dire que si on présente un apprentissage à un enfant sous forme de jeu, et qu'il y prend du plaisir, c'est très bien, il y prend du plaisir, il apprend des choses, c'est très bien, il apprend des choses. Mais son plaisir et son apprentissage, il les tire pas de la finalité de ce qu'il fait, il les tire de la récompense ou de la forme. C'est-à-dire qu'il va pas s'intéresser, il va pas lire des livres parce que ça l'intéresse de lire, il va lire des livres parce que au bout de 15 livres lus, il aura le droit d'afficher le titre lecteur, super lecteur de livres ou des choses comme ça. Alors, je prends des exemples un peu caricaturaux parce que j'ai pas eu l'occasion de préparer des recherches approfondies là-dessus, mais la caricature, on la rencontre quand même largement dans le monde de l'entreprise. Hein. Pour prendre un exemple réel, il y avait eu il y a quelques années à la SNCF, donc un exemple de mise en pratique de gamification auprès des contrôleurs. C'était dit, ouais, on fait un concours, celui qui a le plus, qui a mis le plus de contraventions gagne un iPad. C'est véridique. Hein. Et les syndicats avaient une démarche très intelligente à ce moment-là, c'est-à-dire qu'ils étaient montés au créneau avec les contrôleurs qui disaient « Mais vous savez, on fait notre travail parce qu'on pense que ça a un intérêt en soi de le faire. » Alors, ce qui, dans le cas des contrôleurs de la SNCF, pourrait se discuter, on est d'accord. Mais voilà, on fait pas notre travail pour gagner des iPads. On le fait parce qu'on pense qu'il a une valeur intrinsèque. Et c'est ça un peu le risque, y compris sur les jeux qui défendent les pratiques de santé, c'est ça qui est difficile aussi, c'est que des fois il y a des très bonnes intentions derrière, donc c'est un peu dur de leur dire bah non, on n'est pas, on trouve que ce que vous faites c'est pas vraiment bien, parce que certes l'enfant aura compris qu'il faut se brosser les dents, mais est-ce qu'il l'a compris pour les bonnes raisons? C'est ça toute la question.
Jérôme, vas-y.
Ok. Le point de vue de Sirius de l'ethnologue et encore plus de l'ethnologue qui vient pas du monde du sport ni du monde du jeu. Il y a tout un faisceau de questions, en fait, derrière ces questions on n'a pas ensemble. Je pense que c'est pour ça aussi qu'elle est assez difficile à synthétiser et à reprendre.
Merci.
Voilà. Je m'amuse pas à simplifier les choses, mais voilà. Il y a un faisceau de questions derrière parce que, déjà, premier point, basiquement, qui parle à qui et de quoi? C'est ça. Parce que, depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'on parle de catégories de discours, que ce soit de légitimation ou de risque, d'addiction, etc., d'intérêts financiers, commerciaux, de valeurs, etc. Mais en tant qu'ethnologue, prioritairement, je me poserai la question de savoir qui dit quoi en s'adressant à qui et dans quel but. Un scientifique qui part de la psychologie ou des neurosciences pour parler des questions d'addiction n'a pas exactement les mêmes intérêts que un concepteur de jeu qui propose un concept ou qu'une boîte qui produit ce même jeu et qui cherche à le vendre en essayant d'inventer les vertus éducatives. On n'a pas le même auditoire, on n'a pas le même public, on n'a pas la même personne qui émet le discours. Et personnellement, si j'avais à travailler sur la question, parce que j'ai une posture de scientifique et d'ethnologue, je m'interrogerais sur qui émet cette catégorie de discours et à qui il s'adresse, très basiquement. Et évidemment, les réponses qui en ressortiraient seraient fondamentalement différentes. Bon. Ce qui est très intéressant en soi, mais qui du coup recouvre une quantité de réalité, de logique et de finalité complètement décalée. Et on parlait encore tout à l'heure, voilà, la question de l'intention, de l'adresse, etc. Donc voilà, c'est très difficile de résoudre cette question. Et pour essayer de résumer ce problème, je vais plagier en disant la question qui se pose souvent me concernant, c'est que mettons derrière le mot « sport » ? Et oui, parce qu'on dit que le sport, c'est bon pour la santé et que ça a des vertus éducatives, etc. Mais pour avoir travaillé avec des professionnels du sport ou des enfants qui font du sport-études, je vous déconseille fortement de faire ça pour votre santé. C'est très, très, très mauvais, surtout si vous n'êtes pas sportif à la base. Il va y avoir de gros soucis. Voilà. Et ce qui est très intéressant de mon point de vue aussi, c'est la façon dont ces personnes-là, qu'ils soient des enfants qui pratiquent le sport quotidiennement en mode sport-études ou les sportifs professionnels, ont comme vision de leur pratique. Un joueur de baseball, on appelle ça un baseball player, mais les joueurs de baseball, très spécifiquement, ils ne parlent jamais de leur sport comme un jeu. Ils parlent de travail, systématiquement, et ils le distinguent fortement de la notion de jeu, qui est un rabat toutes les autres pratiques. Ils font des paris entre eux, ils jouent au basketball, ça c'est du jeu. Mais quand ils sont sur le terrain ou qu'ils sont à l'entraînement, c'est du travail, pas de jeu. Et ils mettent en péril à chaque fois leur intégrité physique pour travailler, ce qui leur apporte leur salaire, leur permet de nourrir leur famille. C'est ça, leur discours. Un discours qui n'est pas celui que les autres à l'extérieur prenant sur eux en disant, bah, quoi, ils font un travail formidable quand même, ces gens, ils sont payés à jouer et des fortunes parfois, alors que bon, qu'est-ce qu'ils font? Ils tapent dans une balle, oui. Sauf qu'après, ils sont aussi intégrés dans des logiques commerciales, avec des sponsors, etc., etc. Peu importe. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est qu'à travers ça, on voit qu'il y a différentes définitions de ce qu'est le sport. Je distingue personnellement, par nécessité de travail théorique et conceptuel, le fait de faire sa randonnée, sa marche à pied ou sa course le matin, c'est de l'activité physique. Du sport, ben non, je peux pas. Comme je distingue d'ailleurs le volleyball à deux ballons, qui n'a pas du tout les mêmes enjeux de ce qu'est un sport à la base. Et pour essayer justement d'émettre à nouveau une autre catégorie de discours, c'est notre fonction en tant que scientifique, souvent, pour essayer de dire comment les individus impliqués, selon leur position, voient, perçoivent et discutent, décrivent ces réalités-là de leur point de vue. Voilà. Et je pense que, à partir de là, on peut essayer de retirer tous les fils qui sont souvent, qui se résument effectivement à, mais, au final, quelles sont les propriétés internes et est-ce qu'il y a vraiment qui tient ces logiques-là et pourquoi, du coup, elles sont mises en œuvre? Donc, pourquoi on émettrait un discours du type « je légitime le jeu parce qu'il a des vertus éducatives » ou « je légitime le sport parce que finalement, il serait bien pour la santé ».
Oui, je sais pas trop, effectivement, moi non plus, comment réagir à cette question, parce que je sais pas, ça dépend, ouais, du jeu auquel on s'intéresse, ça dépend si on fait de la recherche ou pas, mais bon, j'ai déjà un peu répondu tout à l'heure. Moi, ce que ça m'évoque, c'est des questions de financement de la recherche, en fait. C'est-à-dire, concrètement, quelle influence peut avoir le financeur, le commanditaire sur une recherche quand l'intérêt du commanditaire c'est de montrer les vertus éducatives ou les vertus sociales, sociables de tel ou tel jeu. Et si je devais répondre à cette question, je dirais que en fait, là j'avais, parce que tu évoquais tout à l'heure les financements de la Française des Jeux. Il me semble que finalement la question qu'on peut se poser par rapport à ce type de financeur, c'est une question qu'on devrait se poser pour toute recherche, c'est-à-dire qui finance. Et quand on fait une recherche financée entre guillemets par l'université ou donc par conséquent par l'État, eh bien à mon avis on devrait se poser la question de savoir ce qu'on a intérêt à dire entre guillemets et à ne pas dire aussi. Voilà, ce que je veux dire c'est que à mon avis, en tout cas du point de vue de la recherche, et je précise entre parenthèses de mon point de vue de chercheur sur cette question là précisément, donc des jeux d'argent avec la question de l'addiction en arrière-plan, moi cette question j'y réponds en me disant la question des financements se pose systématiquement et il faudrait, mais alors là c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, il faudrait en fait avoir une démarche réflexive sur ces questions-là affichée au premier plan dans un article, que comme on pose des questions méthodologiques, alors les psychologues le font souvent, mais c'est de manière déclarative quand ils travaillent sur ces questions d'addiction notamment, on va dire j'ai pas de conflit d'intérêt. J'ai jamais vu quelqu'un dire j'ai un conflit d'intérêt et expliquer quel est le conflit d'intérêt et quel est l'intérêt d'expliciter ce conflit d'intérêt, parce que des conflits d'intérêt entre guillemets, si on généralise le terme, il y en a partout. Enfin, je veux dire, on est toujours en conflit avec nos intérêts quand on mène une recherche, et donc il faudrait, à mon avis, alors c'est encore une fois, en tout cas. C'est une question qu'on doit se poser quand on fait de la recherche dans n'importe quel domaine. À mon avis, on doit se poser la question de savoir qui finance, quel intérêt a le financeur, et quels sont nos propres intérêts. On parlait je parlais d'intérêt personnel à défendre tel ou tel jeu, par exemple. Moi, je disais que j'avais commencé par être joueur amateur de poker. C'est ça qui a constitué mon intérêt personnel pour ce jeu, même si je m'intéressais à la question du jeu de façon plus théorique. Mais il y avait une espèce de couplage d'un intérêt théorique et d'un intérêt pratique. Je sais pas si tu avais un intérêt pour l'endroit du monde que tu as visité quand tu y es allé, mais je pense que ça fait, je veux dire, C'est toujours une question, voilà, le choix du sujet. On dit souvent, ouais, ça m'intéresse parce que j'ai lu tel ou tel auteur. En réalité, y a plein d'autres raisons qui rentrent en ligne de compte. Et donc, nos intérêts personnels rentrent en ligne de compte quand on choisit tel ou tel sujet de recherche. Et bon, là, je me souviens que c'était Laurent Trémel qui avait soulevé ce problème-là des intérêts des chercheurs sur les jeux vidéo pour cette pratique qui a été une pratique de loisir pour la plupart d'entre eux. Bah oui, à mon avis, il faut se poser la question. En ethnologue, en ethnographe, en sociologue, en chercheur, tout simplement, de savoir quel est notre rapport à l'objet.
Si je peux répondre à ça aussi, c'est vraiment une question intéressante, tellement intéressante que j'ai écrit un article pour expliquer pourquoi j'ai fait mes recherches. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a une économie de la recherche aussi derrière. Double économie, non seulement à la question des financements. Personnellement, j'ai jamais été financé que par des institutions publiques, donc d'État. Donc jamais de conflit d'intérêts, puisque généralement, ces institutions ne me demandent jamais de compte rendu. Enfin, juste que je produise des trucs, pas forcément ce que je dois produire, sur quoi et comment. Du moment que vous avez validé le projet de recherche, je faisais ce que je voulais, même si c'était pas dans le projet de recherche. Il y a une autre économie, qui est l'économie de la publication aussi. Alors, aujourd'hui, le format standard, c'est l'article, comme celui auquel je me référais tout à l'heure. Et les articles, c'est un certain nombre de mots et de caractères maximum. Alors, contextualiser la recherche, comme je vous l'ai dit, j'ai créé un article exprès dessus, parce que, finalement, je me suis dit que c'était la meilleure façon d'expliciter pourquoi j'avais fait, enfin, comment j'en étais arrivé à faire ces recherches, pourquoi. Et comment? Après, à l'échelle d'une thèse, personnellement, l'introduction de ma thèse, où je peux me permettre d'écrire 50 pages sur le sujet, détaille ces questions-là. Et pour le coup, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis un ethnologue qui vient de l'extérieur du monde du jeu et des sports. Je n'ai d'intérêt pour mes objets, en tout cas de recherche, que intellectuel à la base, pas vraiment sportif. Et le baseball, j'ai commencé mes recherches en ethnologie sur le baseball. Je n'avais jamais vu le moindre match de baseball, et j'explique souvent que l'une des premières choses que je pense quand je vais pour la première fois faire mon terrain, c'est « bon sang, est-ce que ce sport est aussi ennuyeux qu'il n'y paraît ?» Voilà, vraiment le point de vue extérieur, hein, ok. Le terrain, c'est différent. Pour des raisons personnelles, m'intéressait depuis toujours à l'Asie orientale. C'est trouvé que au moment où je faisais une transition entre mon parcours d'historien et celui d'ethnologue, j'ai voyagé à Taïwan avec ma fiancée à l'époque, qui est mon épouse aujourd'hui, donc voilà. Continuité. Et du coup, en allant à Taïwan, je me suis dit oui, c'est très bien. J'ai eu beaucoup d'affection pour ce séjour et pour ce pays. Du coup, je me suis dit ok, dans l'Asie orientale qui m'intéresse, je vais choisir de travailler sur Taïwan. Et les sports, c'est venu après quand il a fallu choisir un objet, mais c'était vraiment par intérêt purement intellectuel, des cours que j'avais reçus, des lectures que j'avais faites, et puis une expérience au détour d'une rue un jour où je me suis aperçu que tous les gens qui normalement bondaient les rues un samedi après-midi s'étaient réfugiés dans des immeubles et des maisons pour assister à un match qui se déroulait en Grèce et qui opposait Taïwan au Japon en baseball. Voilà, c'est le jour où j'ai compris que mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils regardent du baseball, c'est normal, c'est notre sport national. C'est normal, c'est notre sport national quand on est ethnologue. Ça veut dire regarde, c'est un sujet de recherche. Voilà. Et pareil pour le volleyball, c'était un accident. Je commence souvent à travailler dans les écoles. Je savais que j'avais un angle mort par rapport aux populations austronésiennes, et surtout celles qui vivaient dans les montagnes, donc pas forcément dans les écoles des plaines, etc., que j'étudiais pour ma thèse. Je travaillais dans un lycée, puis un jour je rencontre l'entraîneur de l'équipe de volleyball du collège qui me dit ah, tu t'intéresses au volleyball? Oui, je dis au sport en général, tout ça. Il me dit ah, c'est génial, le volleyball, c'est bien, tu sais que c'est important, hein, c'est notre sport à nous les bounounes. Je dis ah d'accord, très bien. Il me dit oui, tu sais, le volleyball, il est arrivé avec Jésus. Avec Jésus, oui. On joue tous les week-ends à l'église. Et on joue avec deux ballons. Il est où ton village? Et depuis, j'habite là-bas. Voilà. Donc, c'est des rencontres aussi parfois fortuites qui valent la peine d'être explicitées aussi. Mais on n'a pas toujours le loisir de faire ce qu'on fait en conférence, de pouvoir s'étendre sur nos motivations, nos conflits d'intérêts ou pas, nos justifications, parce que c'est tout. Beaucoup de choses à déconstruire et à démonter, c'est assez difficile finalement à le faire, ça prend de la place, et dans l'économie actuelle de la recherche, ça n'a pas vraiment sa place, alors qu'en réalité, effectivement, c'est une question épistémologique, théorique, méthodologique, fondamentale. Voilà.
Je te rejoins complètement sur l'intérêt d'évoquer l'économie de la recherche, d'autant plus que donc je parle d'un courant d'éducation populaire. Et effectivement, avec toute l'importance aujourd'hui des publications d'articles, du facteur H, de tout ce qui fait que être universitaire, c'est savoir se vendre, c'est savoir démontrer l'intérêt de ce qu'on fait, etc. Moi, donc en tant que éducation populaire, j'aurais tendance à dire finalement aujourd'hui les universitaires sont les moins bien placés pour faire de la recherche.
Quelle conclusion. Effectivement, ça fait déjà presque 2 heures qu'on parle, donc on va s'arrêter là et on va s'arrêter là pour l'aspect magistral et on va passer dans la salle d'à côté pour le cocktail. Mais...
Désolé, j'avais une question qui m'intrigue depuis la lecture de l'article que tu nous as.
Voilà.
Non, mais c'est qui est là évoqué en introduction de son propos, c'est la question de la chasse aux têtes humaines. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette chasse aux têtes humaines?
La chasse aux têtes humaines, on peut pas être plus explicite, c'est la chasse aux têtes humaines. C'est-à-dire que les groupes austronésiens qui vivaient à Taïwan, jusque dans les années 20, tous les groupes austronésiens de l'île étaient des chasseurs de têtes humaines. Alors, c'est-à-dire qu'ils pratiquaient cette chasse dans le cadre d'une forme de guerre permanente qu'ils menaient avec les groupes voisins, parfois même au sein de certaines communautés dans leur propre groupe. Il y a des règles de chasse aux têtes qui sont différentes selon les communautés, selon les groupes. Et la chasse aux têtes était quelque chose d'extrêmement important, car c'est ce qui permettait vraiment la reproduction sociale, dans le sens où c'était souvent, pour beaucoup de groupes, un rite de passage. On ne devenait un homme et un guerrier viril qu'à partir du moment où on ramenait la tête d'un ennemi. Voilà. Après, les pratiques peuvent différer selon les groupes, effectivement. Et ça avait toute son importance, car c'est la reproduction du groupe social, mais aussi la garantie de l'existence, celle dans le monde matériel, donc dans sa société, mais celle aussi dans l'au-delà. Par exemple, pour les Atayals, les Sedjek, les Atayals, leur mythe, c'est que il existe un arc-en-ciel qui relie le monde des vivants à celui des morts. Et en bas de l'arc-en-ciel se trouvent des crabes géants qui découpent et dévorent ceux qui tombent de l'arc-en-ciel. Et on ne peut marcher sur l'arc-en-ciel qu'à condition d'être devenu un vrai Sedjek, et donc d'avoir déjà ramené une tête humaine. Et donc on peut imaginer ce que ça a pu représenter pour ces groupes et ces sociétés-là, à partir du moment où l'institution étatique est arrivée en leur interdisant ce type de pratique, et où du coup, ils devaient renoncer à l'idée de rejoindre les ancêtres, et donc de devenir éternels en franchissant l'arc-en-ciel. Voilà. Et c'est quelque chose qui est très fort et très présent, parce que bon, aujourd'hui, des gens qui ont 50 ans me parlent de leurs grands-parents qui chassaient les têtes humaines à l'époque. C'était très bien. On faisait des murs de têtes, devant la maison. Ça, c'était possible. De crânes humains. On a des photos. Voilà.
Voilà. Donc, on aurait pu, faire de cette pratique rituelle un sport, enfin, le sportifier.
Alors, évidemment, non, c'est pas vraiment combinable avec la chose. Mais il faut comprendre aussi que les sports, notamment, par leur dimension compétitive pour certains, sont devenus des façons de rappeler cette mémoire-là et ces histoires, et de raconter des exploits de guerriers en revenant de compétitions sportives. Et donc, quand on fait des compétitions, par exemple, de volleyball avec des villages voisins, mais cette fois-ci sur le sens vraiment sportif du terme, avec de la compétition, eh bien, souvent, on peut allumer un feu de camp le soir, et les joueurs vont raconter comment ils ont réussi à marquer tel ou tel point, etc., et à battre tel et tel village avec qui on entretenait une ancienne rivalité et compagnie. Et finalement, ils reproduisent ce qu'on leur a expliqué comme étant le retour de la chasse, et pas n'importe quelle chasse. Voilà. Il faut dire qu'ils se sont retrouvés en plus limités à ça, c'est-à-dire la question des sports, c'est pour ça que c'est assez important aussi pour eux, qui peuvent dire que ça fait partie de leur culture pleinement, parce que en plus de la chasse aux têtes, on leur a interdit plus récemment de chasser les animaux ils avaient sur leur territoire. Voilà, pour des questions de parcs naturels et autres. Donc, ils se sont retrouvés vraiment brimés en termes de pratiques culturelles. Et de la chasse aux têtes humaines, ils étaient passés à la chasse aux animaux. Et de la chasse aux animaux, ils ont reporté une partie de leur représentation sociale et une partie des enjeux de leur reproduction sociale sur d'autres pratiques. Et donc, en l'occurrence aussi, les sports, les jeux sportifs, etc. Voilà, pour essayer de... d'éclairer cette question.
Très bonne question.
Donc il peut y avoir une piste pour réintroduire éventuellement la chasse aux têtes humaines en ludothèque. Quoi.
On peut en parler. Ça se négocie avec l'État, merci.
Merci. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous rendre sur la page web de l'épisode pour retrouver toutes les informations partagées lors de cette conférence. Que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site, Twitter, Facebook ou Apple Podcast. Et surtout, parlez de nous autour de vous. Restez attentifs aux prochains événements organisés, et d'ici le prochain, jouez bien !